Vision d'histoire.
Bonjour et bienvenue à Vision d'Histoire. Je m'appelle Martine Dumais. Il me fait plaisir, comme à chaque semaine, de vous retrouver pour notre regard sur le passé. Aujourd'hui, nous poursuivons notre conversation sur les réseaux d'assistance et l'aide à l'enfance dans la ville de Québec au 19e et 20e siècle, une économie sociale mixte. Et nous recevons, pour poursuivre cette conversation, Mme Joanne Degg, bonjour.
Bonjour.
Qui est professeure au département d'histoire de l'Université Laval et Dave Gilbert, étudiant au doctorat.
Bonjour.
Bonjour Dale. Et ils participent tous les deux aux travaux du laboratoire socio-historique sur la ville de Québec. La semaine dernière, Madame et Monsieur, nous avions vu un petit peu la mise en place, le contexte du 19e-20e siècle. Une ville de Québec qui est en mutation, qui change beaucoup, et des problèmes qui étaient identifiés, des réseaux d'assistance qui se mettent en place. On avait pu voir avec Madame Degg dans un premier temps donc les orphelinats et les crèches. On s'est attardé donc au phénomène, à son évolution, et on n'avait pas eu le temps beaucoup de parler de la question des filles au sein des orphelinats et des crèches, et il y a un aspect quand même intéressant à noter qui est très caractéristique pour les filles.
Oui, bien, les filles se retrouvent plus longtemps dans les orphelinats parce que la plupart sont dirigées par des congrégations religieuses de femmes. Alors, lorsque les garçons doivent quitter à l'âge de 12 ans ou 14 ans, selon les époques, ben, les filles peuvent rester jusqu'à 16 ans, voire même 18 ans dans certains cas. Et les garçons vont avoir tendance à être placés dans des orphelinats spécialisés, comme notamment des orphelinats agricoles. Mais il y a aussi des œuvres qui seront mises en place pour les filles, notamment l'œuvre Notre-Dame du Bon Conseil, qui était chargée de servir, qui servait de refuge, si vous voulez, à la fois aux filles qui sortaient des institutions, des orphelinats, mais aussi les filles qui arrivaient de la campagne pour travailler souvent comme domestiques. Et cette œuvre-là va servir de bureau de placement, va servir de refuge où elles pouvaient se loger. Elles vont même mettre en place une cuisine pour financer l'œuvre, mais aussi pour offrir des repas à prix modique aux jeunes femmes qui travaillent dans les manufactures, notamment en plein centre-ville, en plein rue de la Couronne à Québec. On craignait à ce moment-là que les jeunes filles restant seules soient susceptibles d'avoir tout un ensemble de problèmes. Alors, on voulait les protéger, contrairement aux garçons, par exemple.
Et dans un deuxième temps, donc comme volet d'assistance, on va parler des écoles de réforme et d'industrie. Et cette fois-ci, Dave Gilbert, vous êtes intéressé au sujet, donc dans vos recherches.
Oui.
Pouvez-vous nous parler un petit peu du contexte où ces écoles-là se mettent en place?
Oui. Les écoles de réforme et les écoles d'industrie, c'est un réseau qui est le fruit d'une longue suite d'initiatives privées et publiques pour les problématiques de l'enfance délinquante, pour l'enfance abandonnée ou l'enfance violentée ou encore négligée. Dès les années 1830 et précisément en 1831 à Québec, on fonde des orphelinats privés pour les orphelins. Mais ces orphelinats-là ont une expérience au quotidien très difficile parce que le financement est très instable. On dépend de la charité privée, on dépend d'octrois des gouvernements qui sont discrétionnaires et inégaux. Donc, peu à peu, dans la mire des réformateurs sociaux, apparaissent ces petits orphelins-là, ces enfants négligés, ou encore les petits délinquants et les petits vagabonds qu'il y a dans les rues, et dont la nécessité de les prendre en charge se fait très, très aiguë. Et en 1857, l'État québécois met sur pied un premier réseau pour répondre à ces problèmes-là, qui sont les prisons de réforme. Dans ces prisons de réforme-là, on place ensemble garçons et filles, petits catholiques, petits protestants, des enfants de tout statut, dans des institutions qui sont profondément déficientes, des vieilles institutions qui sont mal chauffées, mal gérées, et l'expérience se révèle très rapidement désastreuse pour le bien-être des enfants. Donc, les écoles de réforme et d'industrie qui sont mises sur pied à partir de 1869 sont une espèce de réponse de l'État québécois pour corriger les lacunes du premier réseau des prisons de réforme en mettant sur pied des institutions qui sont divisées par sexe, garçons et filles sont séparés, catholiques et protestants sont séparés, et on en confie, si la direction de ces écoles-là est publique, donc l'État gère et finance, la gestion va être confiée à des communautés religieuses pour le versant catholique et à des corporations laïques pour les institutions qui sont de dénomination protestante.
Et donc, là, on a là l'aspect mixte, entre
oui.
autres. Oui. D'accord. Et donc, c'est un phénomène de régulation sociale.
Oui. Autant qu'on peut observer que l'État québécois se sert de ces institutions-là pour contrôler ou moraliser les masses ouvrières. Autant on peut voir par le bas de la lorgnette que les familles vont se servir de ces institutions-là pour, par exemple, placer un enfant au caractère un peu trop rebelle, par exemple, dans les écoles de réforme, ou encore, en cas de difficulté, comme on en a parlé pour les orphelinats, de faire placer un enfant ou deux ou plusieurs dans une école d'industrie en cas de difficulté familiale, à la mort d'un parent ou lors de la perte d'un emploi, par exemple.
Et donc, un enfant peut se retrouver là de façon ponctuelle, finalement.
Oui. Oui, j'ai vu dans les différents registres de ces institutions-là des enfants qui sont placés parfois pour quelques jours, parfois jusqu'à 5 ou 6 années. Le processus par lequel les enfants étaient placés là, c'était, on les faisait passer devant une espèce de cour, devant un magistrat qui, selon les besoins et la situation de l'enfant, le faisait placer selon un terme, généralement de 3 ans. Mais en pratique, on voit très bien que ces termes-là ne sont pas très respectés. On voit bien que les familles se servent de ça pour faire placer leur enfant, mais peuvent les reprendre au bout de quelques semaines, quelques mois, ou parfois, si les besoins sont très graves, l'enfant pourra être gardé beaucoup plus longtemps dans l'institution, parfois même aux frais des communautés religieuses qui, voyant que le terme finit, mais que la famille de l'enfant n'est pas capable de le reprendre, va garder l'enfant ou les enfants de la famille à leurs propres frais durant plusieurs mois et même quelques années parfois.
Et à Québec, dans la ville de Québec, est-ce qu'on sait où il y en a eu, par exemple, de ces écoles?
Oui, 6 de ces écoles ont existé à Québec. 3 écoles de réforme, une en plein cœur de Québec, dirigée par les Sœurs du Bon Pasteur, une à Lévis, pour filles, celle du Bon Pasteur, pardon, une école de réforme pour garçons à Lévis, qui était dirigée par les Sœurs de la Charité. Et puis, ces deux-là, dès les années 1870, et beaucoup plus tardivement, dans les années 40, une seconde école de réforme pour filles, dirigée par les Sœurs du Bon Pasteur, à Cap-Rouge. Et du côté des écoles d'industrie, on en a trouvé une pour filles en plein cœur de Québec, aussi dirigée par les Sœurs du Bon Pasteur, une école d'industrie mixte pour à Lévis, dirigée par les Sœurs de la Charité, et une seconde école d'industrie des Sœurs de la Charité, qui était située dans le même établissement que l'orphelinat d'Ouville à Giffard. Donc, grosso modo, 2 communautés religieuses qui se séparent les clientèles. Les Sœurs du Bon Pasteur plutôt à Québec, les Sœurs de la Charité plutôt à Lévis. Et puis, un peu comme on a vu pour les orphelinats aussi, ces institutions sont fondées en pleine ville et au fil des besoins de ce que les clientèles augmentent, on va s'installer en campagne pour pouvoir cultiver la terre, pour avoir des bons légumes, entretenir un troupeau de vaches pour le lait et aussi pour faire sortir les enfants dehors. Lorsque l'institution fondée à Saint-Roch est encore un petit peu en périphérie de la ville, mais que dans les années 40, Saint-Roch se retrouve en plein centre-ville aux côtés d'industries qui sont très polluantes, les Sœurs du Bon Pasteur vont faire le choix d'aller s'installer à Cap-Rouge où est-ce que c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus espacé.
Et ce phénomène-là, dont vous avez parlé de fondation au 19e siècle et au 20e siècle, il y a un caractère d'évolution finalement.
Oui, oui. Si on... Les enfants qui sont placés, par exemple, en école de réforme, au tout début, on désire placer dans ces institutions-là des enfants qui sont jugés délinquants, donc vagabonds, qui ont des comportements jugés néfastes, et les enfants n'écoutent pas leurs parents, les enfants ont fait des vols ou ont attaqué parfois certaines personnes. Mais au fil des années, les écoles de réforme vont accueillir plus en plus des enfants qui pourraient être placés théoriquement à l'école d'industrie, parce que la frontière entre délinquance et assistance est très, très ténue dans ce réseau-là. Si on voit un enfant qui n'a pas encore commis de comportement répréhensible, mais qu'on pense qu'il est sur la pente pour le faire, on va parfois le placer en école de réforme en disant « prévenir plutôt que guérir ». Et pour ce qui est de l'école d'industrie, au fil du temps, on va voir que de plus en plus, si les orphelins sont le premier statut admissible en école d'industrie, ce ne seront pas des orphelins qui vont majoritairement composer et peupler les écoles d'industrie. Ce seront plutôt des enfants de famille ayant 1 ou 2 de leurs parents et qui sont placés pour des motifs reliés à la pauvreté, à la négligence ou à la maladie ou au peu de capacité des parents.
Et à travers vos recherches dans les archives, est-ce que vous avez pu voir qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là? Parce qu'à un certain âge, j'imagine qu'on quitte les écoles de réforme et d'industrie. Qu'est-ce qui arrive?
Oui. Le réseau provincial des écoles de réforme et d'industrie ne prévoit aucune solution, aucune mesure à la sortie des enfants. Donc, théoriquement, lorsqu'ils sortent de l'institution, le soutien est terminé. Mais les congrégations religieuses ou encore les communautés protestantes qui gèrent ces écoles-là vont mettre sur pied des œuvres, des services pour pouvoir continuer à assurer un suivi aux enfants. Par exemple, les Sœurs du Bon Pasteur vont mettre sur pied le patronage Sainte-Geneviève en 1916 parce qu'elles voient que les petites filles qui sortent de l'hospice Saint-Charles n'ont et qui n'ont pas de famille, bien entendu, se retrouvent dans la rue sans presque aucun soutien. Donc, les Sœurs du Bon Pasteur vont mettre sur pied le patronage Sainte-Geneviève pour continuer à leur assurer une éducation, pour leur donner des cours, pour devenir domestique, ou pour donner une petite base, ou encore sténodactylo au milieu du 20e siècle. Et puis, Petit à petit, on fonde encore d'autres œuvres parce que les filles vieillissent. Donc, le patronage Sainte-Geneviève, il y aura aussi le foyer Sainte-Geneviève pour maintenant les jeunes adultes qui sont autant des anciennes de l'hospice Saint-Charles ou encore des jeunes filles de famille qui n'ont pas l'âge pour être placées en école de réforme ou d'industrie, mais qui ont besoin de soutien. Donc, petit à petit, on voit un réseau qui se bâtit.
Vous écoutez Vision d'Histoire, je suis en compagnie de Mme Joanne Daigle et de Dave Gilbert. Mme Daigle, le troisième réseau que nous allons présenter, c'est celui des gouttes de lait. Le nom est très, très joli. Pour les gens, je pense qu'ils peuvent comprendre à travers les mots ce que ça veut dire, mais c'est quoi exactement?
Bien, les gouttes de lait, c'était des cliniques de puériculture, comme on dit plus récemment. C'était des centres pour les bébés, les nourrissons de 0 à 2 ans. Dans ces centres-là, on distribuait du lait, soit gratuitement, du lait sain. Attention, parce que j'avais mentionné la semaine dernière que le lait n'était pas pasteurisé. Ce n'était pas une procédure obligatoire avant les années 1940 à Québec. Alors, l'été, il y avait beaucoup de bactéries, etc. Et donc, on distribuait du lait sain. Et on offrait aux familles, aux mères, la possibilité de faire examiner leur bébé gratuitement par des médecins. Donc, des consultations par les médecins, la distribution de lait et puis des conseils aux mères sur la manière de prendre soin de leurs enfants. En fait, c'était basé sur l'idée que la mortalité infantile était tellement élevée dans une ville comme Québec, mais à Montréal aussi et ailleurs dans d'autres villes aussi, qu'on mettait souvent la faute sur les mères, sur leur ignorance à prendre soin de leurs enfants, sur les mentalités à changer, si on veut, parce que c'était beaucoup plus simple de tenter d'aborder la question par ce biais-là que d'assainir, si on veut, l'eau, le lait, etc., bien qu'on connaissait les vecteurs de propagation hein, des bactéries qui tuaient le plus grand nombre de bébés.
Et qui intervient dans ce réseau des gouttes de lait?
Mais ça, c'est intéressant. C'est un réseau typiquement laïque, je dirais. Quand on parle de dames patronesses, ben, ce sont des femmes laïques qui sont les premières à mettre en place ce réseau-là. Et qui, c'est des femmes, évidemment, de milieux sociaux bien nantis, mais qui se sentent une responsabilité sociale, je dirais, de voir aux plus démunis et qui vont utiliser leurs contacts, des femmes de médecins, de juges, etc. Plusieurs vont utiliser leurs contacts pour alerter les politiciens, la ville de Québec, pour alerter plusieurs instances pour financer leur œuvre, parce que le financement leur incombe en bonne partie, mais elles vont aller chercher des subventions complémentaires de la ville de Québec, des gouvernements provinciaux et bientôt fédéraux aussi. Elles vont chercher l'appui des curés des paroisses pour annoncer la tenue des cliniques, et souvent elles vont utiliser les paroisses comme locaux pour la tenue de ces cliniques-là. Et on vise à faire une œuvre médico-sociale, si on veut, pour toutes les mères de la ville de Québec. Mais c'est bien certain que l'essentiel des cliniques va se concentrer dans les quartiers populaires où la mortalité infantile est la plus élevée et où la majorité des gens n'ont pas les moyens de consulter les médecins pour faire examiner leur bébé.
Et ce réseau-là existait aussi à Montréal, je crois.
Oui. La ville de Québec a copié, entre guillemets, ce qui existait à Montréal de ce point de vue-là. Mais à Montréal, le réseau est mis en place à partir de 1910. Mais à Montréal, il y aura un double réseau, à la fois fondé sur les paroisses et à la fois un réseau pris en charge par la municipalité, un réseau de cliniques publiques puis un réseau privé paroissial, probablement parce que la population est beaucoup plus multiethnique. Les communautés anglo-protestantes sont plus importantes, juives, etc., de d'autres confessions religieuses, alors qu'à Québec, on aura seulement un réseau paroissial. Et ce réseau-là va être concentré, il y aura une vingtaine de cliniques au total, qu'on appelait des gouttes de lait, et il sera concentré essentiellement dans les paroisses centrales de la ville, évidemment, parmi ces paroisses, bien concentrées dans les paroisses les plus pauvres de la basse ville, et puis le long de la rivière Saint-Charles aussi dans Limoilou.
Et donc, l'Église collabore à travers les curés, à travers les locaux qu'on prête. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations qui se font pour l'Église à ce réseau-là?
Bien, parfois, des curés vont être appelés à jouer le rôle de médiateur, si on veut, quand les dames patronesses qui vont vouloir garder l'autonomie de direction de leurs œuvres. Parfois, elles auront maille à partir avec les médecins, par exemple, etc. Parfois, elles vont demander l'intervention des prêtres, mais aussi elles vont faire affaire, si on veut, avec des messieurs charitables de la Saint-Vincent-de-Paul pour qu'ils distribuent du lait à certaines familles gratuitement également. Il y a tout un réseau de collaboration donc, qui s'établit via ces dames patronesses. Et puis, elles vont elles-mêmes souhaiter une modernisation de leurs services, de leurs œuvres. Elles vont elles-mêmes proposer pour la ville de Québec, donc un projet de desservir pas seulement les bébés de 0 à 2 ans, mais les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Parce que dans la ville de Québec, il n'existe aucune clinique pour assurer un suivi médical, si on veut, des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Et puis, elles vont souhaiter aussi faire plus que de voir à l'hygiène alimentaire des bébés. Elles vont vouloir voir à l'hygiène sociale, mentale, etc., etc. Ce qui n'existait pas du tout dans la ville de Québec. Mais leurs cliniques vont être les seules existantes jusqu'au milieu des années 1960, au moment où la ville de Québec va, je dirais, construire son propre réseau public municipal de cliniques à partir du réseau existant qu'avaient mis en place les dames du réseau des gouttes de lait.
Et donc, c'est une des surprises que j'ai eues en regardant vos écrits, c'est que jusqu'à la Révolution tranquille et même au-delà, le réseau existe à Québec.
Absolument. Absolument, il faut attendre. Et sur cette question-là, la ville de Québec est très en retard par rapport à celle de Montréal, par exemple. Elle se compare davantage aux petites villes. Il faut attendre 1965 pour qu'il y ait un véritable service municipal qu'on appelait de clinique pour les mères et les nourrissons, les mères et les jeunes enfants.
Et les gens qui intervenaient dans le réseau des Goudelais, est-ce qu'ils vont se retrouver dans ce nouveau système qui se met en place? Est-ce qu'on a un héritage?
Bien sûr, bien sûr. Le projet que les dames patronesses avaient soumis à la ville de Québec dès 1945, qu'elles vont revoir avec les services d'un médecin qui était très, très actif dans le réseau des Goudelais, de la broquerie Fortier. Et donc, le projet qu'elles soumettent dès 1951, c'est exactement le même que la ville de Québec va ressortir de ses tiroirs et puis va mettre en application à partir de entre 1965 et 1970. Et tout le réseau des cliniques, si on veut, va se construire à partir des initiatives mises en place par les dames patronesses qui avaient jusque-là assuré l'essentiel, je dirais, du financement et de la recherche de financement.
Vous écoutez Vision d'Histoire, je suis en compagnie de Mme Joanne Daigle et de D. Gilbert. Mme Daigle et M. Gilbert, donc, on en est déjà au terme de cette série de deux émissions sur l'économie sociale mixte à Québec au 19e et 20e siècle, les réseaux d'entraide et d'assistance. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, de vos travaux que vous faites, des travaux qui sont donc en cours, parce qu'on sait que ce n'est pas terminé encore, les grandes lignes que vous diriez, si vous avez deux, trois idées à retenir?
Bien d'abord que les trois réseaux dont on a fait état, tous les trois ont en commun de s'appuyer sur ce qu'on appellerait aujourd'hui une économie sociale de type mixte. Et puis je pense qu'on peut bien comprendre pourquoi, si vous me permettez.
Vous allez nous lire un extrait d'un article apparaître.
Oui, d'un article apparaître, oui. Je pense que ça illustre au mieux ce dont on, ce dont on parle. Quand des enfants sont accueillis dans les écoles de réforme et dans les écoles d'industrie aux frais des congrégations religieuses pour compenser les lacunes du réseau, quand la plus forte proportion d'enfants de l'orphelinat d'Youville s'y trouve dans les années 1940 parce que leur mère est malade, quand des enfants illégitimes transitent à la crèche dans l'espoir d'être adoptés et insérés dans une famille, quand des garçons ayant dépassé l'âge légal en institution se confondent avec les bouscottes de la ville à l'œuvre des petits vendeurs de journaux, quand des orphelines côtoient des jeunes filles arrivant de la campagne à l'œuvre Notre-Dame du Bon Conseil, eh bien, on comprend mieux que les institutions sur le terrain aient dû s'ajuster pour pallier aux difficultés.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien que c'est un réseau qui a été constamment en évolution pour répondre aux besoins.
Oui, je pense qu'il faut tenir compte aussi du milieu urbain de la ville de Québec avec ses difficultés, ses possibilités aussi, mais qui va faire en sorte que ça suscitera plusieurs initiatives de ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile pour compenser les lacunes. Et je pense qu'on ne peut plus voir les choses de manière contradictoire, dichotomique, public-privée, religieux, laïque. On voit des collaborations de tous ordres, en fait, alors que souvent l'État va reprendre les initiatives privées qui ont été développées par des congrégations religieuses, par des dames patronesses laïques également. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs aspects qui subsistent de ces modes d'organisation-là.
Et Dale, quel serait donc l'héritage ou les héritages de tout ce système que vous avez étudié?
Mais justement, les traces de ce modèle d'assistance et de services sociaux à Québec, plusieurs sont présentes aujourd'hui alors qu'on n'en est presque pas conscient. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, tout le service des loisirs, des parcs et loisirs de la ville de Québec aujourd'hui, bien, c'est n'autre que l'ancêtre de l'œuvre des terrains de jeu, qui a été mis sur pied par un curé en 1929 au parc Victoria. Donc, il y a des traces très profondes de ça. Par exemple, le Centre de services sociaux de Québec, lorsqu'on a étatisé et rendu public tout le système de santé et d'assistance au Québec, eh bien, on s'est servi d'œuvres comme par exemple à Québec, le Service familial de Québec, qui joue un rôle central dans l'assistance aux familles. On a pris sa même structure, on a suivi ses mêmes buts, on l'a étatisé. Aussi, un centre d'accueil qu'on connaît sous le nom de l'Escale aujourd'hui, qui accueille encore des jeunes filles, des jeunes garçons, eh bien, c'est sorti tout droit d'une initiative des Sœurs du Bon Pasteur et de leur réseau d'assistance aux gens en difficulté. Et outre ces œuvres-là qui ont changé de nom, qui ont changé de main au fil des ans, il y a encore des œuvres qui existent encore aujourd'hui sous leur première nature. Par exemple, tout le réseau des patros. Le patro Laval va fêter en 2010 ses 100 ans d'existence. Le patro de Lévis aussi est presque centenaire. Il l'est déjà, je crois. Donc, aussi la St. Bridget's Home pour la communauté protestante existe encore aujourd'hui depuis au plus de 100 ans. Si c'était un foyer et un refuge pour enfants et pour vieillards et malades au début, aujourd'hui, c'est devenu un centre hospitalier de soins de longue durée, un CHSLD. Donc, on voit la continuité des anciens réseaux sous une mouture plus moderne, plus récente. Il y a aussi la Société Saint-Vincent-de-Paul, évidemment, qui continue son œuvre fort dans l'assistance aux familles. Donc, on voit que l'héritage est très, très présent.
Donc, ces traces-là, vous les mettez en évidence, donc, en conclusion. Cette recherche-là n'est pas terminée. Dans le fond, vous êtes venu nous présenter un volet de votre recherche, mais oui, elle est en cours. Quels seraient, je dirais, les défis de cette recherche-là?
Bien, je pense que les défis sont importants parce que ce sont des questions qui ont beaucoup touché les gens. On remonte à environ 5 générations quand on parle des années 1850. Donc, les traces sont présentes dans les familles au niveau des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et je pense que de documenter tout un volet, un peu tabou, un peu caché du passé, c'est important. C'est important de dire, de nommer, mais de remettre les choses en contexte. Et on a ici abordé juste, un volet où on a tenté de comprendre un peu un fonctionnement d'ensemble à travers quelques exemples, mais il resterait beaucoup de pistes de recherche à poursuivre. D'autres chercheurs ont trouvé pour d'autres villes, par exemple, que les élites locales se sont beaucoup impliquées dans les années passées, qui ont produit, donc, comme la Société Saint-Vincent-de-Paul, c'était des messieurs charitables, on peut le trouver la même chose au niveau féminin, mais il reste à mieux comprendre les relations entre les élites locales qui pouvaient, comme cela, accéder souvent à la notabilité dans leur société. Ça aurait aussi sans doute permis aux gens qui arrivaient de la campagne à mieux s'intégrer à travers tout un ensemble d'œuvres, de services aussi, pour affronter les difficultés premières de la vie en ville. Il resterait, je pense, à mieux examiner les quartiers centraux de Saint-Roch et Saint-Sauveur, dans lesquels il y a eu les plus nombreuses initiatives, je dirais, mais aussi d'autres réseaux de services, toute la question de l'assistance aux familles, comme la Société Saint-Vincent-de-Paul, le service familial, et en même temps, toutes les trajectoires des enfants, des jeunes dans l'univers complexe de cette nébuleuse de services. On a pris cette image des nébuleuses en milieu urbain.
Nous arrivons déjà à la fin de cette seconde émission. Nos auditeurs et auditrices ont dû beaucoup aimer donc, ce que vous nous avez partagé. Vous avez un article à paraître donc, dans Recherche sociographique en février, dans les premiers mois de 2008?
Oui. Probablement la fin du mois de février 2008. C'est un numéro spécial qui va porter sur la ville de Québec.
Et si jamais, en attendant donc votre article, on peut toujours regarder au Pays de l'enfance de Lucie Desrochers aux éditions Publications du Québec, qui est un ouvrage avec de nombreuses photographies qui va rappeler différents éléments auxquels vous avez fait allusion. Joanne Degg, Degg Gilbert, je vous remercie beaucoup d'être passée à notre émission.
Merci à vous.
Merci à Jonathan Martin pour la mise en onde et à Mario Blouin pour le choix musical. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Vision d'Histoire.
Je vous remercie.